On continue dans nos études des paroles de Jésus-Christ. Vous avez pour père le diable, dit Jésus dans Jean 8, 44. Voici à mon avis la parole de Jésus la plus insultante qu'il a prononcée. Quel choc cela a dû être pour des gens religieux s'imaginant plaire à Dieu d'entendre cela. Lisons d'abord ensemble le contexte de cette parole percutante de notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons au verset 30 du chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous dis la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de notre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne m'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire. » Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Fin de la citation. Notons d'abord au verset 30 à qui Jésus a dit qu'ils avaient le diable pour père. Ce sont à des Juifs qui venaient de décider de croire ce que Jésus disait. C'est quand même étonnant de voir Jésus dire à des gens qui ont cru en lui qu'ils ont le diable pour père. Il faut tenir compte du fait que dès le début de cet évangile, L'apôtre Jean nous mentionne que Jésus n'était pas impressionné par certaines professions de foi quand il constatait qu'elles n'étaient pas sincères. On lit ça dans Jean 2, 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Fin de la citation. C'était manifestement ici le cas aussi. C'est pour ça que Jésus leur pose une condition pour qu'ils se considèrent vraiment comme ses disciples qui ont cru en lui. La condition, c'est qu'ils doivent adhérer à tout ce qu'il enseigne et le manifester par leurs paroles et leurs actions. On voit ça au verset 31 et 32 quand il dit aux Juifs qui croient en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Voyez le conditionnel, « Si vous demeurez dans ma parole. » On lit aussi dans 1 Jean 2, 4, « Celui qui dit, « Je l'ai connu et ne garde pas ses commandements, est un menteur. » La vérité n'est pas en lui. Retournons dans l'évangile de Jean, le verset suivant, au verset 33, la réponse des Juifs croyants, parenthèse, ça montre la superficialité de leur foi en Jésus. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient des esclaves du mensonge. Jean 8, 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Fin de la citation. Plus loin, on lit qu'ils n'avaient aucune idée de qui était réellement Jésus. Ces Juifs blessés dans leurs orgueils, ils les ripostaient en lui lançant des mensonges. Ils le traitaient de Samaritain, de possédé. On lit ça au verset 48 et au verset 52 du chapitre 8, toujours dans le même chapitre. Ils ne réalisaient pas vraiment qu'il y avait devant eux Dieu fait homme. Rappelons encore que ces paroles ont été prononcées par des Juifs qui avaient cru en lui, au verset 30. Cela démontre qu'ils avaient cru à une image qu'ils s'étaient faite de Jésus. Ils s'étaient fait de Jésus une idole, une représentation. Ils n'avaient pas du tout conscience de qui Jésus était vraiment. Il y en a de même de nos jours. Beaucoup disent croire en Jésus sans croire qu'il est Dieu fait homme, sans croire qu'il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Ce genre de foi en un Jésus bonasse qui va guérir puis sauver tout le monde, même malgré eux, c'est pas biblique du tout. C'est un énorme mensonge, car il laisse ceux qui adhèrent à ce mensonge sur l'impression qu'ils croient en Jésus alors qu'ils ne croient pas en tout, pas du tout en Jésus. Et que s'ils meurent dans cet état-là, ben ils vont être désagréablement surpris au jour du jugement dernier. Alors Jésus, il va d'un traitement choc. Il emploie les paroles les plus dures qui soient pour les secouer de leur torpeur spirituelle. Ce n'était pas le temps de les flatter. Le grand médecin de l'âme avait discerné que cela leur prenait un remède de cheval, pour leur donner une opportunité de réaliser leur séduction et de se libérer de l'esclavage du mensonge. La réaction de ces Juifs croyants, parenthèse, dans Jean 8, 59, démontre qu'ils n'ont pas voulu avaler la pilule donnée par Jésus. Ils sont plutôt allés chercher des pierres pour le lapider. Jésus en a profité pour se faufiler hors du temple. Attardons-nous un peu sur le mensonge. Il y a des leçons à en retirer. Le mensonge décrit ici par Jésus est comme un esclavage. Au verset 34, le menteur est un esclave du diable. Le diable le maîtrise, car il a réussi à le séduire en lui faisant croire que le mensonge lui serait profitable. En effet, à court terme, le mensonge est souvent profitable au menteur quand il est cru par ses victimes. Il le faut bien, sinon personne ne mentirait. À moins d'être foyer. Comme l'a si bien dit Salomon dans le Proverbe 20, verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme et plus tard, sa bouche est pleine de gravier. Parce que le mensonge est profitable à court terme, celui qui le pratique en est esclave puisqu'il a été séduit. Il s'est laissé convaincre qu'il ne pourrait pas arriver à ses fins autrement. Alors, à ses yeux, il n'a pas le choix de mentir. C'est pourquoi il est esclave de ce péché. C'est ainsi que depuis le jardin d'Éden, le diable a séduit les hommes. Dans le jardin d'Éden, c'est là que la vérité de Dieu a été changée en mensonge pour la première fois par celui que Jésus appelle le père du mensonge, le diable, dans Jean 8, 44. Le père du mensonge est une tournure de phrase imaginée par les Juifs pour dire que c'est lui qui est à l'origine du mensonge. Le mot diable, ça vient du grec diabolos. Dans le grec classique, le diabolos désignait celui qui désunit, qui inspire la haine et l'envie par la médisance et la calomnie. C'est exactement ce que Satan a fait avec Adam et Ève. Il les a désunis entre eux. Adam a blâmé Ève et il les a désunis d'avec Dieu. Il a inspiré la haine et l'envie chez l'homme parce qu'il a réussi à faire croire à l'homme que Dieu l'empêchait d'avoir ce qui était bon. Dieu l'empêchait d'être heureux. Depuis ce temps, l'homme est enclin par nature, par héritage adamique, à se prendre pour Dieu et à mentir comme le diable. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous avez pour père le diable ». Comment le diable s'y est pris exactement pour que les humains croient ses mensonges? Avec Adam et Ève, il se sert d'une vérité et il y insère juste assez de mensonges pour qu'elle soit encore crédible. Si le mensonge est trop gros, un être humain normal va le rejeter à tout coup. Alors il faut étirer la vérité, mais pas trop. Il arrive souvent que le menteur qui a du succès devienne moins prudent avec le temps. Il se dit « Ah, je l'ai dans ma main, je peux lui faire avaler n'importe quoi, il me fait confiance. » Puis là, il vient à étirer la vérité au point que son mensonge devienne évident aux yeux même de l'individu qu'il avait réussi à séduire. Ça se passe souvent comme ça. Le menteur ne réalise même pas qu'il est allé trop loin et qu'il a perdu toute crédibilité. Alors, il arrive le temps où il est confondu quand son mensonge est exposé. Que fera-t-il alors? Il peut persister dans son mensonge et faire un fou de lui, mais un bon menteur n'insistera pas trop longtemps quand il a épuisé toutes ses cartes. Il sait reconnaître quand il est coincé, et comme son but est de continuer à profiter des autres, il va chercher à sauver la face en reconnaissant son mensonge. Cette repentance peut être sincère, mais il y a un grand danger de ses récidives, car la séduction de ce péché est très difficile à déloger. Il peut très bien accepter l'humiliation et reconnaître son mensonge pour la forme, en se promettant d'être plus prudent à l'avenir. Il a tellement confiance dans ses capacités de mentir qu'il s'imagine pouvoir recommencer pour continuer à profiter des avantages que lui procurent ses mensonges. Il ne réalise pas qu'il est maintenant sous haute surveillance et que seules ses paroles pouvant être prouvées sont crédibles. Tout ce qu'il avance sans preuve est maintenant hautement suspicieux. D'ailleurs, c'est la meilleure manière de discerner le mensonge de la vérité dans la bouche de celui qui ment par habitude. Quand celui-ci dit la vérité, vraiment, il s'empresse avec joie de vous fournir les preuves de ce qu'il avance. Par exemple, s'il parle vraiment avec quelqu'un au téléphone, il va mettre les haut-parleurs afin que vous puissiez l'entendre vous aussi. S'il vous parle de quelqu'un, il sera aussi en mesure de vous donner ses coordonnées afin que vous puissiez aussi le contacter. Mais s'il s'arrange pour que ce soit impossible pour vous de le faire, alors vous savez qu'il est en train de vous mentir. Il vous reste juste à déterminer quel avantage il vise avec ce mensonge. Et en général, c'est pas très difficile à trouver. Je vais vous raconter une anecdote maintenant. Il y a quelqu'un qui se disait être en contact avec une personne pouvant m'aider. Cependant, il ne m'a jamais permis de parler avec cette personne au téléphone et il n'a jamais permis non plus de lire les textos qu'ils s'échangeaient entre eux. En fait, une seule fois, il est arrivé à moi tout heureux de pouvoir enfin me prouver qu'il parlait vraiment avec quelqu'un pouvant m'aider. Il m'avait alors montré un numéro de téléphone, mais ce qu'il n'avait pas pensé, c'est que je n'étais pas pour vérifier ce numéro de téléphone. J'ai alors réalisé que c'était impossible que ce numéro de téléphone corresponde à la personne censée m'aider, car le code ne correspondait même pas au pays concerné. D'ailleurs, plus tard, quand son mensonge a été exposé devant les pasteurs, cette personne ne lui a plus jamais envoyé de texto ni téléphoné, ce qui est révélateur, puisqu'elle n'avait aucun moyen de savoir que la supercherie était découverte. Jusqu'à preuve du contraire, cette personne n'a donc jamais existé et ses conversations n'ont jamais eu lieu. Le diable est appelé le père du mensonge. C'est parce qu'il est son inventeur. Avant le jardin d'Éden, jamais personne sur la terre ni dans le ciel avait menti. Les premiers humains ont cru au mensonge et toute leur progéniture aussi. C'est pourquoi Jésus dit qu'ils ont pour père le diable. Tous les hommes sont menteurs par nature, à cause de leur nature pécheresse. Tous les hommes sont portés naturellement à mentir en pensant y tirer un avantage. Jamais personne n'a eu besoin de suivre un cours pour mentir. Cela vient tout seul. C'est dans le fond du cœur de l'homme, c'est inné. C'est un héritage empoisonné qui nous a été légué par nos premiers parents. Tous les hommes sont esclaves du péché parce que tous les hommes sont des menteurs, selon qu'il est écrit dans Romains 3:4, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Fin de citation. Parce que tous les hommes sont menteurs de nature, il ne faut donc pas s'étonner de les voir mentir. C'est pourquoi Jésus nous avertit d'être prudents comme des serpents dans Matthieu 10:16. Malheureusement, on baisse parfois notre garde devant des gens qui font profession de foi, en s'imaginant que maintenant ils sont de nouvelles créatures et vont nous dire toujours la vérité parce qu'ils se sont repentis. Je suis tombé moi-même dans ce panneau pendant un temps. C'était naïf de ma part, je le reconnais. Bien sûr, c'est possible qu'un menteur invétéré se convertisse et abandonne le mensonge. Et c'est ce que Dieu désire, naturellement. Mais pour cela, il doit avoir une prise de conscience profonde que le mensonge lui est vraiment néfaste. S'il continue à avoir dans le mensonge des avantages plus que des inconvénients, il va persister à mentir. Parce qu'il va être aveuglé par ses succès éphémères. Il va se dire qu'il n'y a pas le choix. Nous lisons dans Éphésiens 4:17, « Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller en égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Puisque nous sommes membres les uns des autres, le chrétien qui ment à son frère se ment à lui-même. En faisant du tort à son frère, c'est aussi à lui-même qu'il fait du tort. Pire encore, en trompant son frère, c'est Dieu qui le trompe aussi, car Dieu habite dans son frère. Ananias et Saphira ont appris de la manière dure que le péché ne devait plus faire partie de la vie chrétienne. Nous lisons dans Actes 5:1. Mais un homme appelé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et il le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que tu as vendu le champ? » Elle a répondu « Oui, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'emballa de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Fin de citation. Ceci nous montre que Dieu a le mensonge en aversion. Et quand tu mens à un chrétien, tu es en train de toucher à la prunelle de l'œil de Dieu, Zacharie 2:8. Tu ambitionnes sur sa grâce et quand Dieu juge que cela suffit, ben là, Si tu es ce genre de personne qui tire profit du mensonge, réalise que ce n'est que pour un temps. La vraie bénédiction vient de Dieu, pas du diable. Proverbe 10:22 nous dit « C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. » Fin de citation. Fais preuve d'intelligence et cesse de voir le mensonge comme un jeu. Et la bénédiction de Dieu va t'enrichir d'une manière durable. Tu n'auras plus à éprouver le chagrin de l'humiliation à chaque fois que ton mensonge sera découvert. Car sache que ton mensonge finira toujours par se savoir tôt ou tard. C'est une promesse divine. Nous lisons dans Luc 8, 17, Jésus a dit « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, et rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. » Fin de citation. Alors, voici ce que le Saint-Esprit t'encourage à faire maintenant d'un cœur sincère. Tes paroles et ton comportement démontreront par la suite si tu as expérimenté une vraie repentance. On lit dans Proverbe 28, 13 « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Verset 14, « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » 1 Jean 1, 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Fin de citation. Pour les victimes des menteurs, joignez votre cri au roi David. Dans le psaume 120, verset 2, il dit « Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. »